Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kero.
Faut-il douter d'Hugo Lloris? Faut-il avoir confiance en le capitaine des Bleus? 32-16 touche 9 et vos messages sur la chaîne twitch.tv/rmcsport. Avant de vous écouter les grandes gueules, on retourne à Doha rejoindre Arthur Perrault auprès des Bleus. Arthur, est-ce que les performances d'Hugo Lloris font débat dans le vestiaire tricolore?
Dans le vestiaire, non. Et c'est vrai que c'est surtout la presse outre-Manche qui en parle aujourd'hui pour ce match. Tu l'as dit il y a quelques instants, Jérôme, si particulier pour Hugo Lloris qui va retrouver son coéquipier sous le maillot de Tottenham, Harry Kane. Voilà, le temps de 90 minutes. Et Hugo Lloris l'a précisé tout à l'heure en conférence de presse. Ils seront un peu moins amis parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, les deux hommes sont très proches. Voilà, le gardien de l'équipe de France l'a encore dit, c'est vraiment un gars super avec lequel je m'entends très très bien du côté de Londres. Guy Stéphane était présent en conférence de presse cette semaine, l'adjoint de Didier Deschamps. Il a été interrogé sur ce match, dans le match assez particulier entre les deux hommes. Voici la réponse de l'adjoint.
Bah d'abord Hugo, moi je le trouve aussi très très serein. Il connaît bien évidemment Harry Kane puisqu'ils jouent ensemble depuis plusieurs années. Il connaît la manière dont il frappe, la manière dont il ferme son pied quelquefois, il connaît son jeu de tête, il connaît ses déplacements. Voilà, c'est vrai que ça peut être, on peut considérer que ça va être un match dans le match puisque ce sont deux joueurs qui jouent dans le même club. Bah évidemment qu'ils auront des choses à se dire quand ils reviendront à Tottenham tous les deux. J'espère qu'il y en aura un qui aura plus le sourire que l'autre.
Voilà, Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps. Arthur, la presse anglaise n'est pas tendre ce matin avec Hugo Lloris et il a dû répondre, il a été cuisiné sur ce sujet évidemment en conférence de presse.
Oui, je vous en parlais il y a quelques instants, c'est nos confrères du Télégraphe qui expliquent ce matin que le point faible de cette équipe de France, c'est le gardien Hugo Lloris. Alors, c'est vrai qu'on se demandait qui allait oser poser cette question, si quelqu'un allait oser tout simplement la poser en conférence de presse de veille de match. Eh bien oui, voilà. Est-ce que Hugo Lloris partage cette analyse? Qu'est-ce qu'il a à répondre au Télégraphe? Voici sa réponse.
Non, pas en conférence de presse ou pas à travers les médias. Je crois que le plus important, ça reste le terrain et on fait abstraction de tout ça. On n'a pas forcément besoin d'une motivation qui vient de l'extérieur pour jouer un quart de finale de Coupe du Monde. Voilà, ceci étant, ils ont leur opinion et il faudra répondre sur le terrain.
Voilà Hugo Lloris. Arthur, tu restes avec nous avant d'accueillir Jacques Santini. On va voir Julien Laurence, correspondant en Angleterre pour RMC. Salut Julien.
Salut Jérôme, salut à tous.
Julien, on en parlait à l'instant, la presse anglaise fait ses choux gras ce matin du niveau de performance d'Hugo Lloris.
Ouais, surtout le Télégraphe, hein, Arthur l'a bien dit. En fait, ils cherchent des faiblesses à cette équipe de France. Ils ont un peu tous essayé. Il y en a qui ont plutôt été sur Koundé, par exemple. D'autres, effectivement, comme sur Hugo. Hugo, il est très serein. On s'est parlé pendant cette Coupe du Monde. Il est très serein. L'arrêt qu'il a eu à faire, il l'a fait contre la Pologne à 0-0 sur la frappe de Zielinski. Après, voilà, il a encaissé un but contre l'Australie où il peut rien faire. Et puis sur celui du Danemark non plus, sur coup de pied arrêté. Donc lui est très serein. Les Anglais peuvent parler, ils aiment beaucoup parler avant les matchs surtout. Je pense qu'Hugo est un gardien de grande compétition. Il l'a montré, même si parfois il y a quelques erreurs, c'est vrai, ou dans la relance, ou dans la distribution, dans le jeu au pied. Mais lui s'en fait pas du tout. Et je pense que c'est surtout les Anglais qui essayent d'une manière ou d'une autre de déstabiliser cette équipe de France avec ce genre d'article.
Loïc, avant d'accueillir Jacques Santini.
Non, mais c'est faux ce que dit Hugo Lloris, puisqu'il parle d'opinion des Anglais. Il dit les Anglais, chacun a son opinion, mais ce n'est pas une opinion qu'ils ont les Anglais, c'est factuel. Ce que dit le Télégraphe, c'est très factuel. En fait, il se base sur les chiffres de cette saison, notamment la capacité à éviter des buts à son équipe, et ils font le comparatif entre Lloris et Pickford, et il s'avère que Pickford est deuxième meilleur gardien en termes de buts évités en Première Ligue derrière Alisson, et que Lloris est dans la moyenne, dans le ventre mou de
3,5 buts évités par Pickford.
Alors, les chiffres différents, première ligue, que ce soit Opta ou l'autre, mais voilà, en gros, voilà, c'est ça. Et ils font remarquer, et à juste titre, que Pickford est quand même un gardien qui est très à l'aise dans l'exercice des tirs au but. On en revient toujours à ces tirs au but.
J'aurais dû le prendre dans ma team.
Sauf en finale de l'Euro.
Non, en finale de l'Euro, Julien, il en sort deux quand même. Donc oui, il a rien à se reprocher, quoi. Pickford, en fait. C'est les tireurs anglais qui ont quelque chose à se reprocher. Loris, lui, il n'en sort aucun lors de la séance de tir au but contre la Suisse, pour nous. Donc, effectivement, ce n'est pas une question d'opinion, c'est pas une question...
Il arrête un peu devant le match,
question... Oui, c'est vrai qu'il arrête celui de... Je crois que c'est Ricardo Rodriguez, me semble-t-il, contre la Suisse.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais. Mais bon, le fait est que ce n'est pas une opinion, ce sont des faits. Donc, après, on peut être d'accord, pas d'accord. Moi, ce que je sais, c'est que Loris, c'est 142 matchs en bleu, 96 matchs officiels. Et franchement, dans ma tête, et encore une fois, c'est pas pour lui maintenir la tête sous l'eau, mais j'ai plus de boulettes qui me reviennent en tête, notamment celle contre la Suède en éliminatoire avant le Mondial 2018, ou pire évidemment celle de la finale de la Coupe du Monde 2018, il faut quand même le faire en finale, que de sauvetage miraculeux. On parlait de l'Uruguay, Thomas, tu parlais de l'Uruguay, laisse-moi juste terminer, s'il te plaît. Tu parlais de l'Uruguay tout à l'heure, parce que moi je dois m'en aller bientôt. Et effectivement, contre l'Uruguay, il sauve la mise, pareil contre la Roumanie à l'Euro 2016, si je dis pas de bêtises, mais voilà, ça s'équilibre. Donc encore une fois, arrêtons de dire que les Anglais cherchent la petite bête. Non, ils ont des choses factuelles et effectivement, ils font bien de les ressortir. Après, quand Loris dit que voilà, il s'appuiera pas là-dessus, au contraire, appuie-toi là-dessus parce qu'on a envie que tu les démentes et on a envie justement que tu ailles à l'inverse.
Arthur, tu voulais intervenir et après, on a que Jack Santini.
C'est pas son genre de s'appuyer là-dessus. Julien parle avec lui. Moi, j'ai échangé avec son entourage encore hier. Pour tout vous dire, il y a aussi des choses qui ont été dites par la presse française. Hein. Loïc, on parle beaucoup de la presse anglaise du Télégraphe aujourd'hui. Il y a des choses qui ont été dites par la presse française. Oui, Hugo est peut-être moins à l'aise dans l'exercice des pénaltys. Mais de là à en douter en sélection... J'ai du mal à voir sur quoi on s'appuie. Alors oui, il y a des chiffres historiques, tu les as donnés, mais sur la dynamique...
C'est les chiffres de cette saison, Arthur.
Non, mais là, je te parle vraiment sur cette compétition. Pourquoi on en vient aujourd'hui à se poser cette question? Parce que il y a eu ces buts encaissés où Julien l'a rappelé, où malheureusement il ne peut rien faire. Ou alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu deux sorties un peu hasardeuses face à la Pologne?
Non, c'est pas ça.
On s'est dit tout de suite, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter?
C'est pas ça.
C'est ça, moi, que j'ai dit.
Non, c'est pas ça, Arthur. Mais on a notre côté français, on défend le truc. Le choix de carrière ou la façon dont Loris a tout géré, c'est son avantage, c'est je fais peu de bruit et donc du coup ça fait peu de bruit. Je te donne un truc extérieur. Ouais, mais l'alcoolémie post-Coupe du Monde 2018, ça n'a pas été très pénalisant pour lui. Un mec qui l'aurait ramené dans les victoires quand même moins d'humilité, on lui serait tombé dessus. Il a toujours fait ça. Maintenant, effectivement, il y a des matchs où il sort des gros arrêts. On en a parlé, le fait qu'il soit terrien. C'est lui, l'autre jour, sixième journée de Ligue des Champions, qui sort l'OM. C'est lui, le joueur du match, qui fait les arrêts qu'il faut à un moment, etc. Mais le fait qu'il soit terrien, qu'il défende en arrière, etc. Et après, c'est quand même un poste, et on interrogera Jacques Santini, mais c'est une gestion d'entreprise. Il y a le pédigré, il y a le background, il y a les services rendus de surcroît quant à le brassard. En 2006, le divin Chauve est là. Mais Greg Coupet est meilleur. Greg Coupet est au sommet de son art. On a cette conversation avec Loris parce que justement, il est tangent. Fanny va te dire, je crois que c'est Fanny qui va brandir son Maignan. Hier, on avait Sarah d'Angleterre qui allait brandir son Maignan. Je ne sais plus si c'est toi qui parlais de Maignan. T'aimes bien Maignan. Ouais. Voilà. Donc, il peut être tensé avant la Coupe du Monde. Mais il a 143 sélections, il a le brassard, il est ton capitaine. Et c'est des choix où tu prends pas toujours le meilleur pour plein de raisons, et ça on va entendre un ancien sélectionneur.
Mais alors, là où tu as raison, Thomas, là où tu as raison, je vais faire très court, Jérôme, c'est que encore une fois, pour en avoir parlé à ses proches, là où ce débat est vraiment intéressant, c'est que Hugo n'a jamais vraiment été remis en question. Il n'a jamais été critiqué de ses débuts à Nice jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais connu de période où vraiment on a douté de lui.
Alors Arthur, pour avoir suivi l'équipe de France pendant quelques années, il y a une époque où il était au coude à coude avec Steve Mandanda. C'était
tensé
à ce point-là. Non, par contre, en Angleterre, oui. En Angleterre, à Tottenham, Julien, tu peux le confirmer, il a déjà été dans le collimateur de la presse et beaucoup de pundits, de consultants disent d'ailleurs que Tottenham a besoin d'un autre gardien. Julien, et après j'accueille enfin Jacques Santini.
Ouais, non mais il y a eu des moments un peu plus compliqués, c'est sûr. Quand tu passes 10 ans dans un club pareil, qui lui-même, ce club-là, a connu des hauts et des bas, c'est pas toujours facile. Le fait qu'il soit capitaine d'un club pareil quand même, je pense que c'est assez symbolique et ça veut aussi dire beaucoup. Mais effectivement, il y a eu des critiques aussi parfois qu'il a su surmonter. Thomas a raison par rapport à ce qui s'est passé en dehors des terrains. cette nuit d'août 2018, il y a eu pas mal de choses, mais le fait qu'il ait cette longévité, c'est pas facile hein, de rester 10 ans dans un club anglais, encore plus difficile un club du top
10. Et Julien, ils ont ça tes confrères. T'as les boules quand t'es 9 ans là-bas, parce que le point faible finalement c'est toi, c'est parce qu'il est davantage scruté aussi, ils connaissent pas notre championnat, ils connaissent pas les autres gardiens, ils le regardent.
Alors Julien, on va accueillir Jacques Santini, le sélectionneur de l'équipe de France à l'Euro 2004, qui avait battu l'Angleterre grâce à un doublé de Zinedine Zidane en fin de match. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Désolé de vous avoir fait patienter, mais c'est vrai que vous voyez que ce débat autour du Goloris, c'est très clivant, et on en vient à douter de notre capitaine. Vous en pensez quoi?
Qu'il n'y a pas de débat. Hein. Vous l'avez cité, avant il y avait Fabien Barthez, numéro 1, tant que, et maintenant Hugo, qui est numéro 1 depuis pas mal d'années avec le sélectionneur Deschamps. À partir du moment où bien sûr, le poste de gardien de but est plus visé que les autres parce que la moindre faute, et certains de vos observateurs ou de ceux qui ont pris la parole l'ont rappelé, mais bon, on a parlé de 2018. Depuis 2018, que ce soit avec Tottenham où il s'est assis parce que Conte l'avait mis plus ou moins en balance, et en équipe de France, il est au-dessus de tout le monde. Donc il n'y a pas de raison de le remettre en cause par rapport à notre football français, que les Anglais essayent de mettre la pression sur lui ou sur notre équipe avant ce quart de finale, c'est tout à fait logique. Mais pour
plus visé le poste de gardien ou moins? Parce qu'on a l'impression finalement, même quand il y a eu quelques bourdes, si ça s'est bien passé à un moment... On a l'immunité pendant pas mal de temps. Barthez l'a eu pendant très longtemps. Et comme vous le dites, depuis 2010 et Naïsna, c'est Lloris.
Oui, non, mais si on met 2010, il n'y a pas que Lloris. Hein, je veux dire, non. Je crois que ce qui est important, c'est que Lloris ait non seulement la confiance du sélectionneur, et puis il fait partie de ces cadres, de cette épine dorsale, qui depuis le début du mondial est au-dessus au niveau de l'investissement et des performances. Donc il n'y a pas de raison, surtout avant un quart de finale, de se poser la question. Et je ne pense pas qu'à l'intérieur du groupe France, il y ait qui que ce soit qui se pose sur la question sur la performance d'Hugo passé ou celle qui nous attend demain contre l'Angleterre.
Oui, mais Jacques Santini, est-ce que vous ne le trouvez pas quand même moins rayonnant, moins performant dans cette Coupe du Monde qu'il n'y a 4 ans?
Ben, je pense aussi c'est qu'il a été moins sollicité. Je veux dire que les deux premiers matchs, il n'a pas été trop sollicité. On l'a rappelé, 2 buts sur lesquels il pouvait rien. Et puis également, ce qui a été rappelé, l'arrêt, la double intervention, que ce soit d'Hugo ou de Varane, à 0-0. Si c'est nous qui rentrons au score négatif à la mi-temps, ça aurait pu se poser la question. Mais pour l'instant, Hugo fait une Coupe du Monde comme il doit la faire, présence sur le terrain et surtout présence au niveau du groupe pendant les matchs, et surtout, je pense, d'après les infos que l'on a, à l'intérieur du groupe, surtout avec un groupe jeune et perturbé au départ, avec le nombre de blessés.
Fanny Palazzolo, ton regard, toi, sur Hugo Lloris, tu supportes les Bleus depuis de nombreuses années, donc tu connais très bien Hugo.
Bah, je connais très bien, oui, effectivement, et je pense que c'est un peu un poste, effectivement, qu'on ne remet pas en question. Et il y a aussi, alors, il y a l'aspect statistique et l'aspect résultat, évidemment, mais je pense que le fait qu'il soit un grand leader du vestiaire, bah, joue clairement en sa faveur. Et je suis pas sûre que, même si là on sort et il fait une prestation décevante, je suis pas sûre qu'il soit complètement tout de suite évincé du groupe. Deschamps compte sur lui depuis des années, donc les statistiques, elles sont là. Je pense que, à mon avis, on va se prendre un but. Moi, je suis quasiment sûre qu'on se prendra un but demain.
On n'a pas fait un seul clean sheet pour l'instant. Pas un seul match sans prendre de but.
Ouais, c'est ça.
Et en plus, je peux rajouter quelque chose,
Jacques Santini, allez-y, bien sûr.
Oui, non, mais quand on parle, je suis d'accord que c'est un leader dans le vestiaire, mais surtout en sélection, si tel ou tel joueur n'est pas au niveau de ce que attend le sélectionneur et le groupe, il y aura après remise en question, mais ce n'est pas ce cas-là. Hugo d'abord fait son travail de joueur et ensuite de capitaine et après de leader dans le vestiaire, mais ses performances sont pour l'instant au-dessus de tous ses concurrents français.
Julien, juste un mot sur Deschamps et sur Conte en particulier, parce qu'à Tottenham, Antonio Conte a douté au début d'Hugo Lloris avant de se rendre compte qu'il en avait besoin et qu'il était toujours là finalement.
Ouais, le prolonger, effectivement. Alors les doutes, c'est ce que la presse anglaise à cette époque-là avait rapporté. Moi, on me l'avait jamais vraiment dit comme ça, donc je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou s'il y a une part de vérité dedans, ou si c'était un peu les journalistes anglais qui avaient fait un peu le rapprochement rapide, nouvel entraîneur, Hugo à son âge, qui était en fin de contrat à la fin de saison, qui aurait très bien pu, effectivement, Conte aurait pu dire, non, mais voilà, il faut maintenant préparer l'après Hugo Lloris, et c'est dès maintenant, donc on va le mettre sur le banc, et puis on va aller chercher un gardien plus jeune, etc., peu importe. Donc je sais pas trop, en tout cas aujourd'hui, la relation entre Hugo Lloris et Antonio Conte est très forte. Et encore une fois, pour revenir sur le débat, à un moment, si ta relation avec Didier Deschamps est très forte, ta relation avec Antonio Conte est très forte, la relation que tu avais avec José Mourinho était très forte, à un moment, on peut tous avoir notre idée sur Hugo, et on peut l'aimer, pas l'aimer, penser qu'il est bon, pas bon, peu importe. Mais à un moment, c'est quand même les entraîneurs qui choisissent les gardiens, leurs capitaines. Et le fait que Mourinho, Deschamps et Conte, qui sont quand même trois très grands entraîneurs, soient tous... Et toute cette relation-là avec Hugo, et le font jouer, lui donne le brassard, je pense que ça veut aussi quand même dire beaucoup.
Il y a un aspect de son jeu qui est pointé du doigt par les médias anglais, c'est la qualité de son jeu au pied, qui avait été l'un des enjeux que Pochettino lui avait, l'un des défis qu'il lui avait fixé. Avant de vous écouter, Jacques Santini, sur cet aspect-là, je voudrais aussi entendre Stéphane Guy, qui n'a pas encore pris la parole, sur Hugo Lloris. On écoute le gardien et capitaine des Bleus sur son jeu au pied ce matin en conférence de presse.
En ce qui concerne le jeu au pied, on se retrouve dans des situations où toutes les équipes sont prêtes à presser et à mettre en difficulté les relances. Mais c'est le cas lorsque c'est l'équipe de France. Mais lorsqu'on regarde tous les matchs, on voit la même chose, non ? Des équipes prêtes à presser, à mettre en difficulté l'adversaire. Donc après, c'est une question de choix sur le moment, et parfois on fait le bon choix, parfois on le fait pas. Mais effectivement, lorsqu'on arrive à ce stade de la compétition, il faut se rapprocher de quelque part de la perfection dans ses choix pour éviter de mettre en difficulté l'équipe.
Se rapprocher de la perfection, dit Hugo Lloris. Jacques Santini.
Oui, surtout à ce poste-là où la moindre erreur est pénalisante pour le joueur et l'équipe. Et puis surtout, ça donne matière à remettre en question des joueurs. Mais pour l'instant, tout a été clair pour moi pour Hugo Lloris. Et je pense que c'est le débat pour mettre la pression sur notre équipe de demain, des talboïdes anglais, parce qu'ils ne peuvent pas attaquer d'autres joueurs.
Steph.
Moi aussi, Jacques, je roule en talboïde depuis longtemps.
c'est la meilleure. Merci, Stéphane.
Mais non, moi Lloris, d'abord, respect absolu pour la carrière. Il a battu le record de Thuram dans cette Coupe du Monde. Ce
il va
pas
le
rien.
Il va le battre.
Il va le battre
demain.
Là. Mais moi, j'ai aucune inquiétude. C'est pas une question que je me pose à la veille du match en me disant oulala, on a. Des... Je me fais pas dans la tête en me disant à partir du moment où Maignan était blessé, bon, il y avait plus de débat sur le poste de numéro 1 et les états de service de Lloris.
Il n'y en aurait même pas eu.
Il n'y en aurait pas eu.
Je ne suis pas sûr. Enfin, on ne va pas faire des débats. Mais on a déjà assez de débats, je dirais, comme
a
ça.
Son immunité.
Pour éviter d'en inventer. Et moi, là où, par contre, j'ai une position un peu différente peut-être de vous tous, c'est que moi, il m'a déçu. Voilà. Moi, j'attendais du capitaine de l'équipe de France qu'il ait une position forte sur les droits humains au Qatar. Mm-hmm. Et je pense qu'il aurait dû avoir cette position-là. Et à partir de là, pour moi, ça va rester un gardien comme un autre, mais il ne restera pas dans l'histoire du foot. Et je trouve qu'il a manqué de courage.
Mais est-ce qu'ils ne sont pas muselés, en fait ? Moi, je me pose vraiment la question.
Ce que dit Steph est un peu intéressant.
Je me demande vraiment si...
C'est pas lié aux performances sportives de Lloris, pardon.
Mais c'est son plan de carrière, Fanny.
Bah ouais, mais...
Et quand on me dit il s'entend bien avec Bachet, il s'entend bien avec Truc parce qu'il n'a jamais d'avis sur rien et qu'effectivement, il est toujours copain avec tout le monde.
Non, mais vraiment sur ces questions de prendre position, je pense qu'il aurait pu le faire effectivement, mais je me demande s'il n'y a pas une espèce de consigne aussi de la fédération, je sais pas.
Mais non, on dit tous la même chose. On dit qu'il est indéboulonnable. On dit que demain, il a sa 120e cape en tant que capitaine. On remet pas en cause le fait que c'est un grand parmi les grands, comme dit Franck Raviot. On dit juste que ça y est, à un moment, comme avec Cristiano Ronaldo, etc., etc., c'est sans doute plutôt la fin de la carrière
que
le début.
En pleine Coupe du Monde, mais, ou juste avant la Coupe
mais
du Monde.
Mais moi, je crois par rapport à Jacques Santini qu'il est d'abord l'homme aux 143 sélections, d'abord un leader, d'abord Al Brassard et ensuite le joueur. Je crois qu'il est jugé comme ça. et l'inverse, si tu veux. Parce qu'il y a tout ce qu'il y a eu derrière. Et sportivement, on peut quand même se poser des questions.
On se pose la question et en même temps, Julien Laurence, on se dit que face aux Anglais, bah finalement, c'est peut-être le meilleur gardien qu'on pouvait avoir puisqu'il les connaît parfaitement.
C'est ça.
Ouais, exactement, surtout Harry, son grand copain. S'il y a un penalty ou s'il y a une séance de tir au but et qu'Harry Kane se présente face à Hugo Lloris, c'est vrai que cette scène-là, ils l'ont faite des millions de fois à l'entraînement, par exemple. Il le connaît par cœur, ils se connaissent par cœur. Pareil avec Kyle Walker, enfin voilà, c'est pareil avec Kieran Trippier. Enfin, tous ces joueurs-là, il les connaît. Je pense que l'avantage qu'il a, c'est que ce soir ou demain matin, il aura une grande discussion, notamment surtout avec Dayo Upamecano, pas trop avec Raphaël Varane, mais plus avec Dayo Upamecano, sur ce que va faire Kane, sur comment, voilà, ce que fait Kane, et peut-être les petits détails que tu vois pas forcément lors de l'analyse vidéo, parce que Upamecano, il s'est regardé une vidéo, il comprend très bien le football, voilà, il saura à quoi s'attendre, mais je pense qu'Hugo pourra apporter encore plus, peut-être, surtout donc pour Upamecano, des conseils sur la façon de marquer Kane, sur ce que pourrait faire un Bukayo Saka, etc. Et pour ça, il est très précieux. Mais je pense que c'est un débat qu'on pourrait avoir sans fin sur ce qu'il apporte à cette équipe et aussi ce qu'il pourrait faire de mieux, forcément.
Fanny, après j'accueille Jules.
Ouais, juste pour dire qu'ils jouent ensemble depuis de nombreuses années, mais le dernier match contre l'Angleterre, Kane lui en a mis deux quand même. Donc bon, j'espère qu'il a travaillé
le sujet. C'est le match amical en 2017 au Stade de
France.
J'espère
qu'il a travaillé le sujet depuis.
Jules est avec nous dans les grandes gueules du Mondial. Jules a appelé au 32-16, touche 9. Jules, est-ce que tu doutes ou est-ce que tu as confiance en Hugo Lloris?
Ben, il faut dire que voilà, depuis ce début de mondial, il s'est montré peu rassurant, notamment au pied, comme ils l'ont dit les médias anglais. Après, voilà, c'est de bonne guerre, ils veulent foutre un peu la pagaille, on va dire. Mais il faut voir match après match. Demain, c'est un nouveau match. Je pense qu'il peut se montrer au niveau. Il a rarement déçu dans des matchs cruciaux avec la France. On se souvient de la boulette, oui, en finale, mais bon, ça n'a pas coûté le titre en 2018. Non, on verra. Il faut que tous les joueurs se mettent au niveau. Hugo Lloris, en tant que capitaine, je doute pas que demain il sera au niveau, mais voilà, faut le dire, il n'a pas été rassurant depuis le début. Ça, c'est clair, c'est factuel.
Jacques Santini, on profite de vous avoir. Vous êtes le dernier à avoir, vous êtes même le seul à avoir battu l'Angleterre en grande compétition avec l'équipe de France. C'était à l'Euro 2004 avec un doublé de Zidane en fin de match, on s'en souvient. Selon vous, j'ai bien compris que pour vous, Lloris, c'est pas un enjeu, c'est pas du tout la clé du match. Selon vous, ça va se jouer où, ce quart de finale face à la France?
Ben, moi, d'abord, ça sera les deux sélectionneurs. Donc, est-ce que le sélectionneur anglais va maintenir ce pressing assez haut qu'ils ont fait dernièrement en huitième? Ah, ben, avec ça, ça veut dire qu'il va libérer Dembélé et surtout Mbappé dans le 1 contre 1. Et aussi, de notre côté, si Deschamps maintient ce bloc bas qu'il a fait contre la Pologne, pour que son équipe prenne position dans notre moitié de terrain et toujours avec l'idée de bien servir, comment dirais-je, Dembélé, mais surtout Mbappé, parce que pour l'instant, dans nos options offensives, ça repose beaucoup éventuellement sur ses actions côté et centre après pour Giroud, ou intérieur et frappe pour Dembélé pied gauche, et surtout le phénoménal geste que maintenant Mbappé maîtrise avec cette frappe intérieure du pied droit.
Jules, tu es confiant pour le match de demain?
Ah, confiant. On était très confiant au lendemain de la victoire contre la Pologne. Mais voilà, comme j'avais dit, je l'ai dit sur Apolline Matin, donc c'était lundi, j'ai dit ce sera le vrai test. Demain, c'est le vrai test. On n'a pas de match référence avec cette équipe en Coupe du Monde. Donc, confiant, oui, mais c'est du 50-50. Et un petit avantage pour l'Angleterre qui a une profondeur de banc qui est à son avantage quand même.
Jules, merci beaucoup d'être venu dans les grandes gueules du Mondial.
Merci à vous.
On accueille Jeannot Séguier qui commentera le match demain sur RMC. Salut Jeannot.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Ça va Jeannot?
Salut Jeannot.
Tu avais un petit message à passer, je crois, à notre
invité.
J'ai
entendu Jacques Santini.
Oui.
Le vrai Jacques Santini.
Oui.
Bonjour Jaco.
Bonjour mon petit Jeannot.
Comment ça va?
Ben ça va. J'espère que tu vas nous porter chance encore demain encore. Voilà.
Ben, j'espère. Surtout contre les Anglais, hein. Nos chers
amis.
Oui,
mais bon, je pense que ce qu'on a dit là avec la profondeur de banc, mais on a quand même 13-14 joueurs qu'on prouvait depuis le début de la compétition qu'on peut leur faire confiance. Et bien sûr, ça va peut-être se jouer sur des
Jacques,
détails.
C'est justement ça, on n'en a pas de profondeur de banc. 13-14, c'est pas très profond, hein, 5 changements.
Moi, je pense qu'un garçon comme Coman va pouvoir amener en milieu de terrain. Je pense que s'il faut durcir, enfin, c'est Fofana
c'est
va
pas 20 milieux sous les mers, hein, la profondeur de...
Et il a dit 13-14. C'est...
Non,
ah,
j'ai dit 13-14.
Oui, oui, on va gagner la Coupe du Monde à 13.
Ouais, c'est regarde, bon. Coman, Fofana, Konaté, c'est ça, Jacques?
Oui, et puis peut-être aussi éventuellement Kamavinga avec son pied gauche. Non, mais je crois que Kamavinga le prouve avec le Real, non pas en tant que titulaire, mais sur des 30 minutes, chaque fois qu'il est rentré avec M. Ancelotti, il a été au niveau. Donc non, je crois qu'il faut faire confiance à nos joueurs. Didier Deschamps a su resituer une organisation et une confiance. Et puis, ben, un quart final, ça se joue sur peu de choses. Et les joueurs, et surtout nos cadres et notre épine dorsale, en est conscient. Et c'est ce qui est le plus important.
Jacques Santini, merci beaucoup d'être venu dans les grandes gueules du Mondial sur RMC 100% Coupe du Monde.
Voilà, et ben bon, encore mes amitiés à tout le monde et surtout à Jeannot.
On avait bien compris, merci Jacques Santini. Bon match demain, on va remercier Julien Laurence, puisque il a beaucoup de travail le Julien, c'est un peu son match aussi ce France-Angleterre. Merci
le
Julien.
Laurence Ico, hein, n'oubliez pas, merci à tous, à demain.
À bientôt, salut. Et on remercie également Fanny Palazzolo.
Merci à vous.
D'être venu dans les grandes gueules du Mondial, à lundi peut-être.
Allez,
on verra ça.
Ouais.
Allez les Bleus, évidemment. Merci
comment
également.
Comment tu vas vivre le match, Fanny?
Comment?
Comment tu vas le vivre chez toi avec des amis?
Ouais, chez moi, je sais pas, peut-être avec des amis, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Je vais être à fond derrière notre équipe de France et puis j'espère vraiment que l'Angleterre n'a pas rendez-vous avec l'histoire. Voilà.
Merci Fanny, à très vite dans les grandes gueules du Mondial. Merci également à Loïc Moreau qui a plein de travail, plein de chroniques à vous proposer dans le Mondial.
Tu n'as pas à me remercier, mon Jérôme. C'est un vrai plaisir.
Bon, eh bien, écoute,
les faits sont les faits.
On revient dans un instant.
La vérité.
On garde Jeannot Séguia avec nous. On va parler des quarts de finale du jour avec évidemment Brésil-Croatie à 16h. Mais d'abord, on va parler d'Argentine-Pays-Bas. Messi, Van Dijk, qui va gagner? C'est dans un instant, à tout de suite.